radio, tu fais la différence. Radio Libre, la radio, tu fais la différence.
Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Libre. On est très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi pour une émission en live. Juste avant de présenter notre invité du jour, j'ai le plaisir évidemment de saluer Pascal qui est aux manettes de l'émission. Bonjour Pascal.
Bonsoir à tous et à toutes.
Bienvenue à toi.
Merci.
Et Charlie évidemment, salut Charlie.
Coucou Amaël et coucou les auditeurs et Pascal et l'invité.
Notre invité qui s'appelle Olivier Bourquin, qui est coach en nutrition et micronutrition, après avoir été entre autres préparateur physique à la Fédération Suisse de Tennis, auteur de 6 livres autour de différents sujets mais qui ramènent toujours aussi à la nutrition et au bien-être. Il donne des consultations privées avec sa machine mystérieuse dont il nous parlera plus tard. Il a sa propre ligne de produits nutritifs. Beaucoup de sportifs font appel à lui mais aussi tout un chacun. Des gens qui souhaitent retrouver une vie plus saine ou perdre du poids ou pour d'autres raisons. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bienvenue. Bonjour Maëlle, je suis très heureux de participer à cette émission et de te retrouver.
Merci beaucoup. Alors je me réjouis qu'on parle un peu de ton parcours, évidemment, de tout ce qui se passe sur BN Nutrition, de ton actualité. Mais c'est vrai qu'on voulait commencer cette émission avec un fait d'actualité. On voulait ton avis, connaître ton point de vue sur cette histoire d'Union européenne qui a mis sur le marché depuis quelques jours, le 10 février, une poudre de verre de farine qu'on va donc retrouver dans différents aliments, du pain, des biscuits, des fromages. Alors, une solution d'avenir selon certains, puisque la production de verre de farine émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que la viande. Mais toi, Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prêt à ajouter les verres de farine aux produits que tu conseilles à celles et ceux qui viennent te trouver?
Alors moi, je me suis intéressé à ça parce que j'étais dernièrement dans une foire qui était en Allemagne et puis on se rend compte qu'il y a un réel intérêt. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a plus de 2,5 milliards de personnes qui mangent déjà des insectes, mais que nous, ce n'est pas du tout dans notre culture. Mmh. Donc il est clair que moi, ça m'attire pas de manger des insectes à la base. Mais par contre, j'ai goûté la protéine, ça pourrait même être des granolas, et c'est quelque chose de très correct. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tous les acides aminés essentiels sont présents dans ces farines. Et ça, c'est aussi très, très intéressant. Donc, il est évident que, vu qu'on a combien, 8 milliards d'habitants, hein, on est à peu près à ça, eh bien, à un moment donné, je pense que il y a un avenir à ce niveau-là.
Alors, je ne sais pas si tu t'es intéressé un petit peu à la production de cette farine, finalement. Comment c'est fait? Les vers viennent d'où? Comment on les traite?
Alors ça, c'est toute la problématique, parce que en fait, c'est toujours la même chose. C'est exactement comme comment on traite les animaux, comment on traite les poissons, comment on traite les produits laitiers. Et dès le moment où on rajoute des hormones ou des stéroïdes, parce que c'est là-dessus que finalement ces produits ont été attaqués, en disant qu'on pourrait retrouver certains stéroïdes. Donc ça dépend les fermes à insectes, où se trouvent ces fermes à insectes, et puis quelle est la législation derrière. Mais c'est exactement la même chose avec le blé. Moi, je dis toujours aux gens qui mangent des pâtes, regardez derrière l'étiquette, si c'est pas mis au moins EU, Union européenne, ne mangez pas ces pâtes. La plupart des pâtes, si je prends un exemple, Barilla, hein, Roger et compagnie, qui en font la publicité, la plupart de ces pâtes proviennent les blés d'Amérique du Nord. Donc moi, je ne les conseille pas du tout. Donc ce sera exactement la même chose au niveau de ces farines d'insectes, c'est de connaître leur provenance et après aussi de savoir que typiquement, si vous prenez de la farine de grillon, elle est très riche en vitamine B12, qui est très souvent en carence chez pas mal de personnes, et particulièrement chez le vegan. Donc la farine de grillon, elle va être quand même très intéressante pour quelqu'un qui est vegan. Donc moi, j'essaie toujours de dire, mais écoutez, faut ni trop s'exciter dans un sens, ni trop dans l'autre. Parce que à un moment donné, quand on entend « oui, mais ça peut donner le cancer », mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent donner le cancer, parce que cette fameuse chitine ne serait pas…
C'est une molécule donc
chez nous.
Qui se trouve dans ces vers, ouais.
Ouais, et c'est vrai, et ça, c'est aussi très intéressant de se rendre compte que c'est beaucoup plus mangé en Asie et en Afrique. Et c'est pas pour rien. Nous, on sait que notre microbiote intestinal, les pays, on va dire, occidentaux, on digère, par exemple, pas très bien le shiitake. Beaucoup mieux la pleurote. Et le shiitake, pour qu'on le digère bien, eh bien, il faudrait qu'on le cuise vraiment d'une façon, je dirais, assez longue. Mais Moi, j'étais pendant 10 ans, comme tu le sais, j'ai mes bureaux à l'école hôtelière de Lausanne. Et puis, on aimait bien aller manger, bien entendu, au berceau d'essence. Hein,
que, m'étonne.
Et quand tu avais les personnes asiatiques, et particulièrement les Chinois qui te servaient le fromage, tu sentais que ça les dégoûtait parce que eux, ben, ils sont pas habitués au fromage et ils le digèrent pas bien. Donc, eux, ils digèrent pas très bien le lactose parce qu'ils ont pas cette fameuse protéine qui est la lactase. Ben, nous, c'est exactement la même chose où on peut avoir des gens qui auront plus de problèmes de digérer la chitine parce que on n'a pas de nouveau cette possibilité, cette enzyme qui va particulièrement bien digérer ça. Mais c'est toujours une question de quantité. Moi, je le dis avec le gluten. Moi, je ne supporte pas le pain de mauvaise qualité. Mais si je prends du pain avec des anciens blés et avec un levain naturel, j'ai déjà testé, je peux te manger 500 grammes. Donc, faut toujours un peu calmer les gens, hein.
Oui, parce que sinon, on part vraiment sur cette idée de cette molécule qui nourrirait le cancer, les parasites, les champignons qui prolifèrent. Donc, c'est des arguments, des contre-arguments, un petit peu. Tu me disais hier, en fait, c'est intéressant de voir que celui qui veut vendre son truc, il a des super arguments. Et celui qui se retrouve en concurrence, ben, il a aussi il essaie de contrecarrer avec des super arguments.
Mais clairement, parce qu'il y a des personnes qui auront peur de perdre un certain marché, c'est évident. Parce que si on remplace les protéines qu'on peut mettre habituellement par d'autres protéines, on va évidemment trouver quelque chose pour dire attention. Puis, comme tu le sais très bien, un des meilleurs leviers, c'est la peur. Donc, tu fais peur aux gens. Et puis, dès le moment où tu fais peur aux gens, déjà que c'est pas un produit qui est très ragoûtant à la base, les insectes, bah, c'est bon, quoi. Les gens vont dire non, mais moi, je vais pas prendre ça. Et puis, peut-être que dans 5 ans, bah, ça ira de soi, ce sera là-dedans, et puis on n'en parlera plus.
Dans ces verres de farine, qu'est-ce qu'on peut dire de l'apport protéinique réellement?
Ouais, de nouveau, c'est un apport qui est intéressant parce qu'il y a les 8 acides aminés. Mais si on prend aussi typiquement le quinoa, on sait pas trop dans quelle famille mettre le ou la quinoa, on retrouve tous les acides aminés, mais il n'y en a pas non plus énormément. Donc, ce qu'il faudrait toujours comprendre, c'est quelle quantité on va retrouver de protéines, parce que pour moi, d'une manière générale, la plupart des gens sont sous-protéinés. Puis, vu qu'on est dans une société vieillissante, on a de plus en plus de gens qui ont cette problématique de la sarcopénie, hein, c'est la perte de masse musculaire par 2 phénomènes. Un, parce qu'on ne fait pas assez d'activité physique, mais surtout aussi musculaire. On a besoin de soulever des choses, hein, de porter des choses. Et puis, un manque de protéines.
Charlie, est-ce que tu as déjà mangé des insectes?
Alors, je me souviens d'avoir été c'était au musée d'histoire naturelle de Fribourg. Il y avait les portes ouvertes ou la nuit des musées, je crois, c'était ça. Et ils proposaient des insectes. Donc, il y avait des grands bols d'insectes d'un côté qui grouillaient, de l'autre côté qui avaient été grillés. Et j'étais à 2 doigts de le faire, mais au final, l'image m'a vraiment trop dégoûté. Donc, je l'ai pas fait. Donc, je sais pas, mais il paraît que ça a le goût de la cacahuète. Peut-être qu'un jour, j'essaierai, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le truc qui m'attire énormément, je dois dire. Mais il faut aussi dire qu'on en mange, hein. Rien qu'en mangeant du pain, forcément, il y a des insectes quelque part dans la production qui se retrouvent, dans les salades aussi, hein. On se rend pas compte, mais on mange aussi des petits insectes, des petits trucs comme ça. Donc, chaque année, en consommant du pain, des pâtes et de la salade, on mange tous des insectes, hein, sans s'en rendre compte. C'est vrai qu'il faut regarder. Puis c'était un très bon exemple avec les Asiatiques. C'est vrai que les Asiatiques, quand ils leur donnent une fondue, ils sont complètement dégoûtés. Puis après, ils passent une sale nuit parce qu'ils ont l'estomac.
Ils ne gèrent pas.
Hier, j'avais une patiente. La maman vient de Hong Kong. Et puis, on parlait des chiens parce que moi, j'ai 2 chiens. J'adore les chiens. Elle disait, nous, le chien, c'est quelque chose d'important. On va tout faire pour qui soit bien, on va le soigner le plus possible, etc. Bah, eux, ils peuvent le manger, le chien. Et c'est des différences culturelles. Et voilà. Et moi, je suis pas là pour juger. Par contre, si on me pose la question, est-ce que c'est dangereux de manger ce type d'aliments, s'ils sont de qualité, et puis que, évidemment, il faudra varier les protéines. C'est toujours ce que je dis aux gens. Il faut varier les sources de protéines. C'est le plus important. La protéine végétale, l'œuf, qui est une protéine extraordinaire. Dans l'œuf de caille, c'est encore une autre forme de qualité. Si on va dans les produits laitiers, nous, on est ici en Suisse. Moi, j'aime quand même les produits laitiers. On en mange sûrement trop, mais c'est aussi une super protéine. La viande, oui, mais de qualité. la protéine végétale, il y a de plus en plus de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et là aussi, on retrouve des produits extraordinaires comme la marque Planted, qui est zurichoise, qui fait des protéines de petits pois suisses, qui a aucun additif. C'est vraiment un super produit. Le goût est bon. Par contre, il y en a d'autres qui vous mettent 36 000 additifs. Alors, quand on vient me dire, oui, mais ça va donner le cancer, mais il y a tellement d'autres choses qui donnent le cancer. Et là, on vient avec ça comme argument, ça me fait doucement rigoler.
J'avais aussi une question, parce que tu as parlé du gluten, et puis c'est vrai que moi j'avais lu une fois que les particules de gluten aujourd'hui, elles sont plus longues, et puis c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les digérer. Alors, est-ce que tu peux confirmer ça? Puis le deuxième test que je fais quand j'ai du pain, c'est que je regarde s'il est un peu élastique, comme ça, j'appuie dessus, et je me dis, là, il y a du gluten un peu génétiquement modifié qui n'est pas bon pour la santé, et quand le pain est plus friable, je me dis, ah bah ça, c'est du pain qui a été fait avec du gluten de meilleur, enfin plus sain pour l'organisme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me mets des idées dans la tête?
Mais en fait, c'est tout à fait ça, c'est que tu le vois très bien. Moi, j'ai toujours du pain, je travaille avec une boulangerie à Yverdon, avec Gerbervis, pour ne pas les citer, où on a fait un pain des sports, c'est toujours du pain à l'engrain. Donc déjà, on va aller sur des anciens blés, hein, engrais, midonier, petit épeautre. Donc déjà là, il y a beaucoup moins de gluten. Donc celui-là, il va être digeste. Puis après, il y a effectivement le fait d'avoir un levain chef. Donc cette fermentation va faire la différence. Ça, c'est déjà deux points importants. Et souvent, je fais la démonstration à mes patients quand ils viennent à la maison. Je consulte soit à la maison, soit sur Morges. Et je leur dis, regardez le poids de ce pain. Et si tu prends le même volume de pain entre un pain industriel et un pain de qualité, c'est 40% plus de poids. Ça n'a rien à voir. L'autre, tu manges de l'air et de l'acidité. Donc, tu peux que être ballonné quand tu manges de l'air et de l'acidité. Tu sais, moi, je suis assez dans ma technique MMN, moins mais mieux. C'est aller sur des produits qualitatifs et de goût.
Donc finalement, pour mettre un point en conclusion autour de ces farines d'insectes, pas de quoi s'alarmer réellement, avec modération.
Mais de nouveau, il y aura toujours… Tu sais, les gens sont de plus en plus fragiles parce que effectivement, les aliments sont de plus en plus transformés, le microbiote intestinal est de plus en plus perturbé et de moins en moins diversifié, et le microbiote buccal, qui est tellement important avec des gens qui dorment de plus en plus la bouche ouverte, est aussi perturbé. Donc ça perturbe aussi les autres microbiotes, que ce soit le microbiote pulmonaire ou le microbiote intestinal, parce qu'il y a une vraie logique à ça. Et donc c'est normal qu'on ait de plus en plus de gens qui ont des problèmes d'allergie. Et moi, je suis un ancien allergique à tout. J'ai toujours dormi la bouche ouverte gamin. J'ai un fils, la même chose. C'est une catastrophe. Il faut fermer sa bouche, ouvrir ses narines pour bien dormir. Et d'une manière générale, si tu veux bien fonctionner, je dis toujours aux gens, ouvre tes narines et ferme ta bouche.
Et comment tu fais ça quand tu dors?
Le scotch. Et moi, le scotch, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a 5-6 ans en arrière, j'ai lu ce livre-là, James Nestor, Respirer. Je te dis, j'ai pas mal de diplômes universitaires, machin, etc., entraîneur d'élite suisse olympique. D'ailleurs, on n'a jamais parlé de respiration dans cette formation. Eh ben, j'ai plus appris dans mes bouquins souvent et à travers ma machine que dans ce que j'ai étudié. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Ce que je dis, c'est que j'ai appris tellement de choses, j'ai compris tellement de choses et j'ai compris aussi pourquoi j'étais tellement allergique. Ce livre-là, ça s'ouvre comme un roman, James Nestor, Respirer, c'est tout le monde devrait le lire. Et quand tu as des enfants, tout le monde devrait aller regarder si ses enfants dorment la bouche ouverte ou fermée. À l'époque, moi, je connaissais pas ça. Mon fils, il a 27 ans. Et je sais qu'il dormait toujours la bouche ouverte.
Le scotch que tu as présenté pour les auditeurs, hein, c'était pas visuel, c'est un scotch pour les sparadraps. Pas du gaffeur, quoi.
Ah non, c'est pas un truc sadomasochiste. Hein, donc, on est bien d'accord. C'est un scotch tout simple. C'est un micropore. Et après, bon, certains diront oui, mais ça ferme pas complètement là, mais ça aide déjà. Et puis sinon, on peut aller se faire installer une gouttière. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très, très bien.
Bon, bah, ça me permet de passer à la seconde partie de cette interview qui est dédiée vraiment à toi, à ton parcours, à mieux te connaître, Olivier Bourquin. Donc, commence peut-être par nous raconter d'où vient ta passion et pour le sport et pour la santé, la nutrition.
Bon, moi, j'ai un parcours un peu spécial parce que, à la base, j'ai vraiment pas une bonne génétique. Hein. Déjà petit, je dormais. Je pense un angoissé à la base de départ. Et puis, je dormais toujours avec la main contre mon cœur pour être sûr qu'il continuait à battre. En fait, ça, c'est de nouveau le côté être humain qui ressent les choses. Et puis, on s'est rendu compte, quand je faisais beaucoup de sport, que j'avais une fuite sévère de la valve aortique. Donc, mon inconscient, ou j'en sais rien comment, on peut dire, je devais sentir qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc, il y a toute cette partie liée à la passion du sport qui m'a amené à devenir entraîneur de la Fédé de tennis quand Rod, j'avais entre 15 et 18 ans. Donc, je m'occupais à la fois de la prépa physique et aussi je coachais les filles au niveau du cadre national. Et après, je suis allé sur le circuit avec Stéphane Bolli, que j'avais amené numéro 3 suisse. Et après, j'ai quitté ce monde du sport parce que j'étais très, très déçu finalement du traitement qu'on faisait à ces jeunes sportifs, c'est-à-dire on presse le citron à fond, on les casse, puis après on les jette. Et puis, vu qu'en même temps j'étais en formation, dans cette formation d'entraîneur d'élite, je me rendais compte que dans toutes les fédérations, en fait, on fonctionne la même chose. C'est-à-dire que on s'occupe pas de ce qui est autour. Le sommeil, c'est quelque chose qui m'a passionné parce que moi, j'ai eu tellement de trucs et j'étais un très, très, très mauvais dormeur. C'est pour ça que le sommeil, c'est la première question quasiment que je pose en consultation. Est-ce que vous êtes content de votre sommeil? Est-ce que votre sommeil est réparateur? Et en fait, si on récupère pas, on peut pas progresser. Et si on dort pas correctement, eh ben, ça perturbe de nouveau toute notre homéostasie. Donc, au niveau hormonal, ça va pas se passer correctement non plus. Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'ai voulu aller plus loin dans les bilans sanguins, etc. Il y a quasiment rien qui a été fait. Ça n'a pas intéressé les gens de la FEDE. Et en fait, ça fait maintenant, ça fait 25 ou 26 ans que j'ai quitté. Et je me rends compte que ce soit dans presque toutes les fédérations, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et moi, j'hallucine aussi, tu sais, quand j'ai eu un joueur comme Tchouaméni, quand même 100 millions Real Madrid, qui est venu à la maison. Alors, c'est toujours des trucs assez fous, parce qu'ils viennent en jet privé, machin. Enfin, j'ai pas mal de stars dont je me suis occupé. Mais par exemple, dès le moment où une personne est de couleur noire, la vitamine D, c'est à peu près sûr qu'elle sera basse. Eh ben, elle n'est pas systématiquement mesurée. Et c'est des joueurs qui valent des millions et des millions, tu vois. Donc, tu te rends compte que, en fait, il y a tout à faire. Et je dis souvent dans la formation que je propose là sur BN Nutrition, là, sur la nutrition du sport, j'ai sorti il y a 3-4 ans en arrière, mais dans 10 ans, d'une manière peut-être prétentieuse, elle aura encore 10 ans d'avance. Parce que les entraîneurs, les gens ne s'intéressent pas à cet aspect-là. Pourtant, il est essentiel. Un gars comme Djokovic, bah lui, il fait tout juste. Un gars comme Rodge, à l'époque, on n'osait pas le dire, mais les hot dogs, bah, à Roland-Garros, il les aimait bien. Bah, Djokovic, lui, c'est pas ce qu'il mange. Un Cristiano Ronaldo, bah, qui est toujours là aussi sur le 40 ans et tout, bah, lui, il a tout optimisé. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux optimiser? Qu'est-ce que je peux améliorer pour finalement tirer le meilleur de moi-même.
Mais c'est absolument hallucinant et fou qu'aucune fédération soit revenue vers toi en disant « Ah, on pourrait tirer nos joueurs plus loin, on pourrait être encore plus fort. »
Non, il y a aucune fédération. C'est tous des gens qui viennent en privé, de toute façon. Ouais. Et c'est du one-to-one. Il faut que l'athlète soit intéressé. Moi, j'ai arrêté de travailler avec… à l'époque, tu te rappelles aussi, j'avais travaillé avec Fribourg-Gotteron. On avait mis en place des petits déjeuners avec des œufs de caille. C'était incroyable. Gotteron avait jamais fait un début de championnat aussi bon. Et le médecin de l'équipe du sport, à l'époque, était venu vers moi en me disant « Tu crois quand même pas parce que maintenant, ils mangent des œufs de caille et puis qu'ils ont un petit déjeuner, que c'est à cause de ça qu'ils font des bons résultats. » Ouais. C'est hallucinant. Évidemment,
ça va être frustrant.
C'est pas à cause de ça, mais ça faisait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. C'est évident que c'est pas en mangeant des œufs de caille que tu gagnes le championnat. Mais mine de rien, ça va aider. C'est tout. Et c'est un ensemble de choses qui permettent la performance. Et comme si on était concurrents. Mais les gars, mettez votre ego de côté. On est là pour amener une équipe ou un joueur à son plus haut potentiel. Basta, c'est tout.
Donc toi, finalement, tu t'es intéressé à la nutrition et puis à toutes ces bonnes habitudes, d'abord pour te soigner toi-même et accompagner ton parcours avec les faiblesses que tu connaissais, que tu savais avoir. Et puis finalement, est venu le moment où tu as eu envie de partager.
Absolument. En fait, moi, j'ai plutôt un peu du bide jusqu'à 15-16 ans. J'étais pas très athlétique. Après, je suis un ancien allergique à peu près à tout. Je suis un ancien migraineux avec perte de la parole et paralysie. Donc, vraiment, une génétique pas terrible du tout. Hein. J'entends, il y a quand même pas mal de cancers dans ma famille. Le cœur, c'est une faiblesse. Hein. Mon frère qui fait tous les chemins jaunes de Suisse, il a aussi été opéré au niveau de l'aorte. Moi, j'étais quand même opéré deux fois à cœur ouvert. Donc, voilà, pas une très bonne génétique, mais on sait aussi, et ça, j'aimerais le dire, et je tiens à le dire, qu'on peut changer 80% de nos gènes à travers notre hygiène de vie, finalement. Hein. Aussi notre entourage, l'environnement, ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment on dort, le mindset, l'état d'esprit, enfin, toutes ces choses-là. Et ça fonctionne. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire, ça fonctionne, je peux toujours améliorer des choses au niveau de ma santé. Et c'est jamais trop tard. Alors, une fois que t'es mort, mais ça, c'est inéluctable.
Alors aujourd'hui, depuis des années, tu proposes des consultations, entre autres privées, dans lesquelles tu utilises une machine qui a des super pouvoirs. J'aimerais que tu nous la présentes, cette machine, que tu nous expliques en fait comment ça fonctionne et ce que tu fais.
Alors, cette machine, en fait, je m'en lasse pas. Le Multiscan, c'est une machine qui a été conçue au départ pour les cosmonautes russes. Parce que, en fait, les Russes ne sont pas que forts dans le dopage, hein, ils sont aussi forts dans tout ce qui est lié à la physique quantique et à la biorésonance, à tout ce qui est... Moi, j'ai aussi une machine à ondes scalaires. Et en fait, ils n'avaient pas les mêmes moyens que les Américains pour faire des mesures. Et ces mesures-là, elles sont d'une précision incroyable. Par exemple, à travers simplement des capteurs qui sont mis aux pieds, aux mains, au front et puis à un doigt, je peux voir dans quel état, sur plus de 100 paramètres physiologiques, est la personne. Alors, je peux pas savoir si elle est en carence de fer ou de B12, ça, je peux pas le savoir. Mais, par exemple, je peux voir l'état du dos. Ça hallucine toujours les gens. L'année passée, j'ai failli me tuer en VTT, j'ai eu 4 fractures dans le dos. Ils te montrent les endroits où t'as eu les fractures. Sur tous les organes internes, je peux voir comment va ton pancréas. La plupart des gens, d'ailleurs, ont un état du pancréas pas terrible, hein. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on sait que les cancers ont énormément augmenté chez les personnes en dessous de 40 ans. C'est le foie, le pancréas et le côlon. Et ben moi, ça, c'est des mesures que je peux faire. Puis après, je travaille énormément sur le système nerveux autonome. Donc, ayant une vie assez, on va dire, compliquée à pas mal de niveaux, il y a 2 ans en arrière, j'ai fait un vrai burn-out. Hein, c'est-à-dire que je ne pouvais plus rester debout sans tomber. Et ça, ma machine le mesure, si tu veux. Et par exemple, ça peut paraître toujours bête quand les gens te disent « je peux plus aller faire mes courses ». Ouais. Moi, je pourrais plus traverser un pont. Même de 6 mètres de large, avec des barrières, c'est impossible de traverser. Ou alors à 4 pattes. Je dis toujours, quand tu as vécu ce que c'est un burn-out aussi violent, je préfère l'opération à cœur ouvert si je dois choisir entre les deux. Hein. Mm-hmm. Tellement, c'est terrible. Pendant plus d'une année... Je marchais, je me disais chaque fois, je peux tomber. Pas eu de médication, mais j'ai travaillé sur ce fameux système nerveux autonome. Ça, c'est une mesure que je fais aussi. Ce fameux nerf vague qui règle tellement de choses dans le corps. Et il y a un gars qui est passionnant à lire, justement, qui parle beaucoup du microbiote buccal, qui est le docteur Donatini, qui dit qu'il faudrait former des médecins au système nerveux autonome parce que finalement, c'est dès le moment où il est déséquilibré, tu risques de partir dans cet état de burn-out. Comment on peut le régler sans justement se retrouver complètement sous toutes les drogues qu'on peut nous proposer?
Mais alors, je suis sûre qu'il y a des gens qui se demandent, quand tu racontes que tu as fait un burn-out si violent, comment un bonhomme comme toi, qui est si bien éduqué justement à l'hygiène de vie et à la micronutrition, peut en arriver là?
J'ai eu des clients qui m'ont posé cette question de manière assez directe, assez frontale. D'ailleurs, je les en remercie. Et je donnais l'exemple typique de l'eau qui entre dans un mur. En fait, nous, on a eu une inondation dernièrement. Ça rentre assez vite, mais après, ça rentre dans ce mur. Et le mur, il va pas pourrir tout de suite si tu l'enlèves pas. C'est-à-dire que ce stress, tu le construis sur des années. Donc, si tu étais déjà stressé gamin, que tu as eu une vie avant qui était déjà stressante à plein de niveaux, que ce soit au niveau professionnel, personnel, privé, etc., au bout d'un moment, ton système, il lâche, tout simplement. Donc, tu as beau savoir comment manger, boire, etc., mm-hmm. etc. Le risque aussi, tu vois, quand tu fais beaucoup de choses, puis tu sais aussi un peu mieux comment faire pour pouvoir faire beaucoup de choses, c'est de pas avoir l'humilité, peut-être, de te dire, là, il faut que tu arrêtes d'avoir 25 projets en même temps, etc., etc., etc. Et de rediminuer. Moi, je donne souvent l'exemple, quand j'ai vu une seule personne, quand j'ai fait mon burn-out, et en fait, il m'a dit, je vais expliquer ma vie un peu compliquée, il m'a dit, tu sais, ton problème à toi, c'est un éthiopathe à Neuchâtel, monsieur Hinterman. Il m'a dit, tu sais, ton problème à toi, je dis, non, mais tu vas sûrement me dire. Il m'a dit, ton problème, c'est ton ego. Je dis, ah, ok, intéressant, c'est mon ego. Alors, pourquoi? Et il me dit, mais regarde tout ce que tu as eu, tout ce que tu as vécu, tous les trucs que tu as pu avoir aussi physiques, etc., etc. Et t'aimerais être, à ton âge, toujours encore mieux, plus fort, plus de choses, etc. Ben, à un moment donné, c'est pas possible. Donc, il faut réussir à mettre des priorités et il faut revoir ta façon de fonctionner. Et c'était très juste, hein. C'était très juste. Donc, c'est bien. Et il faut que des fois que des gens qui, à travers des petits mots comme ça, te recentrent, en fait.
Ouais. Et ton corps aussi, en fait, t'avais envoyé le signal, quoi. Ouais.
Ah, mais c'est évident, c'est plus qu'évident. Et puis, je veux dire, tu vois, il y a eu la période Covid. Alors, quand t'es indépendant, entrepreneur, on n'a pas été trop aidé. Ça a été super compliqué. Je veux dire, il y a eu ce phénomène-là. Après, moi, j'ai juste à fin de Covid, j'apprends que je dois de nouveau me refaire opérer à cœur ouvert. Donc, tu recommences à peu près tout à zéro chaque fois. Puis, tu sais que tu vas pas pouvoir bosser correctement, qu'il faut recommencer, etc., etc. Puis, au bout d'un moment, ça lâche, tout simplement. Et moi, ça a lâché avec un truc tout bête. Je devais traverser la route pour changer le disque de stationnement de la voiture et je pouvais pas traverser. Je pouvais pas traverser. J'ai pas réussi à traverser. Il y avait un policier à côté qui est en train de poser un radar. Je lui dis, écoutez, monsieur, je vais vraiment pas bien, etc. Il n'en a rien à foutre. Il m'a dit, appelez une ambulance. Et j'ai appelé une ambulance. L'ambulance m'a amené chez mon cardiologue. L'ambulance, il est très sympa. Il me dit, oh, j'ai votre livre, La performance sur mesure. Je dis, bon, écoutez, sympa. Et puis, je suis allé chez le cardiologue avec qui je collabore. C'est à Lausanne. J'ai fait les bilans. J'ai pas de problème de cœur. Je suis allé sur ma machine. OK, terminé. Système nerveux sympathique, parasympathique, effondré, tirer la prise. T'entres dans le monde des morts vivants quand tu fais un burn-out. C'est vraiment ça. C'est les gens, tu vois, c'est pas spectaculaire. Quand tu as une sternotomie, tu as des tuyaux partout, machin, on te dit, oh Olivier, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais un burn-out, ça se voit pas forcément. Hein. Donc, on va plutôt presque te dire, ouais, tu es faible. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Attends, toi, tu devrais, comment? Et c'est assez dingue, là. La différence entre quelque chose de spectaculaire et de mécanique et de quelque chose comme le burn-out. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent jamais du burn-out. Moi, j'ai des clients qui ont 27 ans, qui ont fait un double burn-out et ils sont à l'AI, hein. Donc ça, c'est aussi un domaine dans lequel maintenant je m'intéresse beaucoup, évidemment, parce que j'ai compris et je suis aussi devenu beaucoup plus compréhensif par rapport à ce côté souvent, ouais, les gens, ceci, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ça. Moi, je pense que tout le monde peut faire un cancer, tout le monde peut faire un burn-out, personne n'est à l'abri de rien, quoi. Ça permet de gagner en humilité, ouais.
Je voulais revenir peut-être sur une définition, on l'a peut-être pas définie, puis moi je comprends pas forcément la distinction. Tu parles de nutrition et de micronutrition. Alors bon, nous on fait de la radio, on mange des micros tout le temps, mais je pense que c'est autre chose. Est-ce que tu peux expliquer la différence?
Ouais, alors souvent les gens pensent que la micronutrition c'est bouffer des gélules. Alors c'est pas ça. C'est s'intéresser à la valeur nutritionnelle des aliments. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est de se dire, si je mange tel ou tel type d'aliment, on parlait avant du pain, c'est un excellent exemple, si tu manges 500 grammes d'une baguette, c'est pas la même chose que si tu manges 500 grammes d'un pain au levain, etc., etc. Donc, c'est s'intéresser à la valeur nutritionnelle des aliments, ça c'est la première chose, parce qu'on est quand même pas mal carencé. En oméga-3, on pourrait donner des oméga-3 à tout le monde, tellement les oméga-3, ils sont fondamentaux. Le rapport oméga-3, oméga-6, normalement, on devrait être de 1 est à 5. On est de 1 est à 25. Et à l'époque paléo, on était 1 est à 1. Et ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que les oméga-3, il y a plusieurs familles. Le DHA, c'est vraiment ce qui vient des poissons gras. sur le cerveau, il est absolument fondamental. Donc, manger du poisson gras, alors les gens vont te dire, oui, mais le saumon, il est pollué, etc. Oui, bon, alors on peut aussi manger peut-être autre chose que le saumon. Il existe encore des saumons de bonne qualité aussi. Puis les huiles, on disait avant, par rapport aux farines d'insectes, que attention, etc. À un moment donné, on a fait la guerre à l'huile de colza. Et tout d'un coup, maintenant, ça revient. Mais c'est des phénomènes de mode. Mais d'un autre côté, on met de l'huile de palme partout, on met de l'aspartame partout, on fait n'importe quoi. Puis tout d'un coup, c'est des effets de mode. Puis on revient là-dessus. Boire dans du plastique, c'est une aberration totale. Boire de l'eau dans une bouteille en plastique, c'est une aberration complète.
C'est plein de particules de plastique.
Oui, bah, clairement. Et y a quand même entre les phtalates, les oestrogènes, puis maintenant, il y a encore d'autres particules qui ont été découvertes. C'est une très mauvaise idée. Et on sait qu'il y a du plastique dans tout. Puis on sait à quel point le plastique pollue toute la planète. Mais le plastique nous fait aussi du mal. Donc là, on continue. Donc finalement, c'est comme si on voulait toujours créer une diversion sur des choses tellement plus importantes et plus graves. Comme ça, on s'occupe d'un autre problème. Et comme ça, ça nous arrange bien. Et c'est dommage de fonctionner comme ça. Ben, dans le mode alimentaire, on est un petit peu là-dedans. Et pour répondre finalement à la question aussi sur le micronutritionniste, ben, c'est aussi tout ce qui est en relation avec le microbiote, hein, mais que ce soit le microbiote buccal, le microbiote intestinal, le microbiote pulmonaire, etc. C'est vraiment de s'intéresser à ça. Et moi, là-dedans, j'ai intégré ce que j'appelle... Pas la chrononutrition. Pour moi, c'est la rythmonutrition. C'est qu'est-ce qu'il faut manger à quel moment. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est super important. Parce que tu vois, Maël, pendant longtemps, les gens sur les œufs, ils étaient à 3 œufs par semaine.
Le cholestérol.
Enfin, toutes ces foutaises-là. Moi, ça fait tellement d'années que je raconte ça. Puis tout d'un coup, une étude d'un médecin du CHUV qui dit, bah, si tu manges 2 œufs tous les matins, c'est super bien. Tu vas augmenter ton HDL cholestérol. Le LDL va même diminuer, et voilà, bah parce que c'est le matin qu'on transforme bien les graisses, et il y a des rythmes, ces rythmes qui s'appellent des rythmes nyctémères, hein.
Pardon.
Voilà, ça s'appelle comme ça.
On s'en souviendra au moins.
Qui tient compte du jour et de la nuit, et que les gens, j'interviens souvent pour les gens qui travaillent de nuit, ont une espérance de vie de 5 à 7 ans de moins en moyenne, c'est énorme parce qu'on n'est pas fait pour vivre la nuit, pas fait pour manger la nuit, pas fait pour boire la nuit, et que c'est comme ça. Et que ça, quand tu commences un peu à comprendre tout ça, eh ben, tu te rends compte que tu te sens mieux, tu te sens en meilleure santé. Et c'est des éléments qui sont, pour moi, fondamentaux. Donc, ma vision, elle est vraiment holistique.
Ouais.
Et holistique, ça ne veut pas dire mystique, ça veut dire voir tout d'une manière globale.
Alors, ça doit être hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a les fondamentaux, puis après, chaque personne est différente et fonctionne différemment. Donc, tu dois être très à l'écoute des gens, de leur tracas, de leurs problèmes, pour pouvoir les guider et les conseiller.
Ouais, mais tu vois, c'est tout à fait juste. Mais tu vois, d'un côté, tout le monde est différent, mais au niveau des rythmes hormonaux, tout le monde est la même chose. Donc, il faudrait déjà arrêter avec cette pyramide alimentaire qui a 150 ans de retard, arrêter avec. Parce qu'en Suisse, on a quand même une pyramide alimentaire qui a retiré quasiment la viande, mais qui reste avec beaucoup de produits laitiers. Même en Italie, ils ont retiré les produits laitiers. Parce que tu ne peux pas dire « Ah, il faut manger 3 produits laitiers par jour simplement pour faire plaisir aux producteurs de produits laitiers. » Parce que grâce à ça, tu auras moins de problèmes d'ostéoporose. En Asie, ils n'ont quasiment pas de problèmes d'ostéoporose. Ils n'en consomment pour ainsi dire pas. Donc, c'est de nouveau pour vendre des produits. Moi, j'adore le fromage. Quand je suis en Suisse, je pense que je mange tous les jours du fromage, mais je ne mange pas 3 fois par jour du fromage. Et on est tout le temps là-dedans. Et c'est ça qui, moi, me dérange, c'est d'être dogmatique, en fait. Et plus j'avance dans ma consultation, plus je vois des gens complètement hors normes. L'année passée, j'ai vu un jeune qui mangeait que des fruits. Il est devenu fructivore. Il a plein de problèmes d'allergie. Au départ, j'étais moyennement motivé pour le voir. Je me suis dit, c'est quoi ce gars? En fait, il m'a expliqué pourquoi, etc. Mais il est tellement convaincu. Et sur ma machine, ça donnait des bons résultats. Donc, il y a aussi l'esprit que les gens mettent, à quel point ils peuvent être convaincus par quelque chose. J'ai vu des gens qui font des trucs vraiment qui peuvent être étonnants, mais ils sont tellement convaincus que ça leur fait du bien, qu'ils vont bien, et sur plusieurs années. Donc, ça remet en question plein de choses. Et je te disais hier, en fait, plus je sais que je sais pas. Mais je sais quand même plus que celui qui pense savoir et qui sait rien. Ouais. C'est comme je disais, tu vas voir Gauthieron, il y a 7500 spectateurs, peut-être, je sais pas si la patinoire maintenant fait ça. Tu as 7500 entraîneurs. Mais à la fin, il n'y en a qu'un à la bande. Hein.
Ouais.
Donc, voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Je sais pas si j'ai répondu à la micronutrition.
Si, mais c'est juste fascinant de t'écouter et d'entendre tes expériences. J'espère qu'on a montré un petit peu. Je pense qu'on a fait quasiment une séance gratuite. Parce que c'est un petit peu comme ça qu'on passe quand on vient de voir.
J'aimerais te rajouter juste une chose. Le café.
Oui.
Le café, plus que un, c'est mauvais. Et toute la population est sous caféine. Et tu vois, moi qui travaille aussi avec des cardiologues, etc., tu n'as jamais un cardiologue qui demande aux gens, parce que finalement, cholestérol, machin, etc., est-ce que vous buvez beaucoup de café ? Parce que le café contient certains types de graisses, etc., qui sont malsains. Et trop de caféine, c'est malsain. Et à un moment donné, on va dire, oui, mais c'est bien pour parce que tu diminues avec la caféine les risques alzheimériens, Parkinson. Non, ouais, bah ça arrange ceux qui vendent du café. Mais la plupart du temps, quand tu diminues le café chez les gens, ils vont beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mmh. Donc, pour moi, c'est comme moi qui aime bien le vin, bah on sait que dès le moment où tu dépasses deux verres, il te fait plus du bien, même si c'est du bon vin. Ouais. Donc, on revient sur, faut être qualitatif.
Pas facile. Ça arrive de te faire plaisir et d'exagérer un peu parfois ?
Alors moi, je dis toujours un repas joker par semaine. Un repas joker par semaine, ça vaut vraiment la peine. Mais après, ça m'amuse que tu me poses comme question, Maëlle, parce que en fait, le reste du temps, je prends que des bons produits. J'ai des oléagineux en vrac qui ont un goût de dingue. Le pain, il est incroyable. Le chocolat noir, je vais chez un chocolatier. Tout coûte un peu plus cher, mais t'en manges moins. Et t'es en meilleure santé, puis tu te sens super bien. Donc ça fait vachement plaisir de se sentir super bien. Et puis moi, on se connaît un petit peu. Moi, je suis plutôt, j'exagère vite. C'est-à-dire que si je bois un verre, j'ai de la peine à en boire qu'un. Je peux pas manger deux chips. Je vais manger le paquet de chips. Enfin, je me connais. Donc, j'ai appris à me mettre un cadre par rapport à ça. Mais je dirais que quand tu sens que tu vas bien, tu as envie de continuer de bien aller. Mm-hmm. Le problème, c'est quand tu vas mal. Hein, c'est comme si une voiture, elle a déjà plein de raies. Tu rajoutes une raie, tu vois pas la différence. Mais par contre, une voiture neuve, tu as une petite raie, tu vois plus que ça. Donc, c'est de rester dans cette vision que… Moi, je dis toujours aux gens, faites le programme, je vous dis, allez, 6 semaines et vous verrez. Et j'ai des gens où je leur disais… Moi, j'avais des Valaisans, ils étaient venus, deux frères. Et en plus, ils étaient dans la menuiserie. Et puis, il y en a un, il a un bilan catastrophique. Puis je lui dis, alors là, tu vois, là, on peut dire que ça sent le sapin. Et le frère me dit… Le frère lui dit, tu vois, je t'avais dit. Et je lui dis, il me dit, mais comment le sapin ? Je lui dis, ouais, 4 planches, quelques clous. Et là, franchement, c'est pas bon. Par contre, je te dis, tu fais maintenant les choses justes. Tu reviens dans 6 semaines, on remesure. Tu viens pas si t'as pas fait, parce que tu perds de l'argent et moi, je perds du temps. Mais si tu fais, tu viens, on remesure. Il a fait, il est revenu. C'est incroyable. Le corps, tant que t'as pas un gros pépin, il peut tout le temps réagir et se remettre à niveau. Et ça je trouve, c'est une machine exceptionnelle, le corps humain, vraiment.
Olivier, est-ce que tu as l'occasion parfois de voir des enfants et de, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les enfants, comment vont les enfants aujourd'hui ?
Oui.
Moi, j'ai, par exemple, j'ai des enfants, ce que j'ai vraiment observé, c'est le nombre d'allergies à tout, le nombre de TDAHA, TDAH truc, machin, problème de concentration, ça me paraît énorme chez les enfants, sur cette génération.
Ouais, ça devient assez catastrophique. Les écrans. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur des différents paramètres. J'ai par exemple là aussi une machine qui arrive à complètement purifier l'eau et la réhydrogéner. Elle est rayonisée, donc ça n'a plus rien à voir. Je te fais 2 cafés si tu viens une fois à la maison. Je te ferai un café avec l'eau du robinet et de l'eau comme ça. Ça change tout. Donc déjà les gamins qui boivent des sodas, c'est mort, quoi. Tu vois, quand t'as 4 ans, t'es au Coca, c'est quand même un peu compliqué à mon avis. Et puis les parents, la plupart du temps, ne jouent pas le rôle de parent. C'est-à-dire que sur les 4 formations que moi j'ai mises en place sur la perte de poids, sur le sommeil, sur le sport et sur la nutrition des enfants, celle qui marche le moins, c'est celle sur la nutrition pour les enfants qui a été validée par des médecins. Donc, à un moment donné, tu te rends compte que je pense que certains parents font plus attention à ce qu'ils donnent à manger à leurs poissons rouges qu'à leurs gamins. Tu vois, et quand tu vas faire tes courses et que tu vois que les gamins choisissent quasiment ce qu'ils veulent manger, ça va pas, ça joue pas. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et après il y a le problème justement des écrans, du sommeil, de comment on dort. Et puis la sédentarité, le fait de plus sortir, c'est tellement important, quoi. Il faut sortir. On a besoin d'être au moins une heure par jour dehors. Mmh. Trouvez-vous un petit chien à promener ou promenez le chien de votre voisin, j'en sais rien, mais il faut sortir. C'est des conseils tellement faciles, simples. Les gens te disent non, mais j'ai pas le temps. Ok. Ben moi, c'est ce que m'a dit mon éthiopathe. Il m'a dit revois ta façon de fonctionner. Convoque ta famille, dis-leur que ben maintenant, voilà où t'en es, puis qu'il va falloir aussi trouver une autre manière de faire. Et c'est vrai que moi, le cardiologue avec qui je collabore, il me dit, je vois des enfants qui n'ont même pas 10 ans, qui ont des artères comme des personnes de plus de 70 ans. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Mmh. Et là, bah, le rôle, il est aux parents. Les parents, ils ne peuvent pas que se reposer sur l'école ou sur les clubs, ou j'en sais rien. Ouais, parce qu'à un moment donné, fais pas de gamin si tu n'arrives pas à t'en occuper correctement. Je fais exprès un peu de la provoque, mais je veux dire, à un moment donné, il faut assumer. Hein.
Tu pourras peut-être parler des livres que tu as écrits, peut-être. Mais
oui, on allait y venir. Hein. Il y en a 6.
Magnifique.
Bah, tu vois, là, je vais me tirer une balle dans le pied dernièrement. J'ai quelqu'un qui je devais de toute façon donner une conférence, puis je lui ai fait un bilan avec ma machine. J'ai pris la machine avant. Et il me dit, ouais, votre livre, la performance sur mesure, là, le truc, etc. Je lui dis, mais je ne le réécrirai pas comme ça. Et puis il était tout déçu, quoi. Et puis je lui dis, mais je l'ai écrit à 12 ans. Alors sur les rythmes hormonaux, sur ça, oui. Mais il y a des choses sur j'ai compris différemment d'autres choses. J'ai mûri, en fait. Je suis meilleur maintenant dans mon domaine, même si je suis plus vieux. Donc, pas souvent quand t'es plus vieux, bon, voilà, on va gentiment essayer de te foutre un peu au rencard. Mais là, je suis nettement plus expérimenté et meilleur dans mon diagnostic et dans ce que je peux proposer quand t'as fait plus de 10 000 mesures que quand tu viens de commencer, ce qui paraît être complètement logique. Et tu vois, moi, j'ai un médecin du sport exceptionnel. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, toi, je veux pas te passer la pommade, mais franchement, je connais pas beaucoup de médecins aussi bons que toi. Il me dit, tu sais, je ne sais pas si moi je suis bon, mais je sais que les autres sont mauvais. Et je lui dis, ah, ça c'est intéressant. Et dis-moi pourquoi tu penses ça. Il me dit, parce que, tu vois, tu étudies 8-10 ans, et si tu ne continues pas, si tu n'es pas passionné, tout le monde oublie. Tout le monde oublie, et tu tombes dans une routine, et tu deviens mauvais. Et tu es tout le temps obligé de te renouveler, de faire de la recherche, de comprendre, de chercher. Voilà. Si tu n'évolues pas, tu deviens mauvais. Et je suis convaincu par ça, clairement.
Ça me rappelle une anecdote. Là, ma fille venait d'être malade et puis on l'a amenée voir un médecin. Et le médecin voulait lui donner quelque chose avec de l'ibuprofène. Et puis moi, j'avais lu une étude justement qui montrait que l'ibuprofène réduit le nombre de globules blancs produits par le corps. Et donc, ça réduit ton immunité. Et puis, j'avais lu justement que c'est déconseillé de donner des produits avec l'ibuprofène aux personnes âgées, aux personnes affaiblies et aux enfants. Mais la médecin, elle ne le savait pas, quoi. Et pour elle, c'était une vérité. Et puis oui, ça montre que les médecins, des fois, comme tu as dit, ils ont arrêté après leurs études et puis ils se mettent dans une routine. Et puis, s'ils ne se mettent pas à jour, ça peut donner des trucs un peu presque dangereux, je dirais. On a refusé d'ailleurs.
Ça peut donner des choses dangereuses. Moi, quand mon frère était dans un centre, parce que moi, j'ai toujours fait ma rééducation tout seul à la maison au niveau cardiaque. Lui, il est allé dans un centre spécialisé. Puis après 15 jours, il était un petit peu au fond du bac. Puis je lui dis, mais montre-moi ce qu'on te donne à manger. Puis il me montre les plans. Je lui dis, mais c'est un gag ou quoi? Je lui dis, tu descends à la COP, tu vas t'acheter de la sardine, tu vas t'acheter de la viande séchée, tu vas t'acheter des produits pour te nourrir, parce que bah, lui, il est super sportif hein, avec tous ses chemins jaunes et tout. Et puis, c'est très vite beaucoup mieux allé. Puis finalement, il a réussi à avoir la diététicienne, mais c'était 15 jours après qu'il lui a dit, ah oui, effectivement, non, pour vous, c'était pas très adapté. Lui, il avait un régime alimentaire d'une personne de 80 ans qui fait pas de sport, quoi. Et là, tu es dans des cliniques de réadaptation, tu vois. Et c'est là où il y a beaucoup à dire à ce niveau-là. Et moi, quand j'étais au CHUV, quand même en privé, où j'avais dit, j'aimerais 2 œufs, s'il vous plaît, le matin. On m'a dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, mais pourquoi? On m'a dit, parce que l'ordinateur ne permet pas d'avoir 2 œufs. On peut pas commander 2 œufs. Alors, demandez à votre femme qu'elle vous amène un œuf supplémentaire. J'ai dit, mais alors, le soir, par contre, je peux commander du pain blanc, du fromage et de la charcuterie tous les soirs, parce que c'est écrit. Ah, mais monsieur, vous faites comme vous voulez. Voilà. Bon, c'est spécial.
Ouais, donc, on est arrêté sur des positions. Il y a des problèmes de remise en question aussi. Se remettre en question, ça demande un effort. Dans la science, par exemple.
Mais tu vois, les fascias, c'est un truc qui est passionnant. Les fascias, moi, j'ai un livre qui s'appelle La méthode Moonsloor qui est incroyable. Si tu as mal à quelque part, tu fais cette méthode. Tous les gens à qui j'en ai parlé qui l'ont faite, moi, j'ai d'abord testé sur moi, tu n'as plus de douleur. C'est un truc de dingue. Et les fascias, tu en as partout dans le corps. Hein. C'est comme un exosquelette. Tu en as sur tes tendons, les muscles, enfin, il y en a partout. Et la première fois que j'étais opéré à cœur ouvert, le médecin m'a dit, vous savez, ce qui prend le plus de temps quand on ouvre une cage thoracique et puis qu'on attaque le cœur, c'est d'enlever une couche visqueuse, blanche, qui ne sert à rien. Et en 1850, on connaissait déjà les fascias. Et là, à l'époque encore, c'était poubelle. Donc moi, je sais que les fascias de mon cœur, durant la première opération, ils sont partis à la poubelle. Et c'est les fascias, ils donnent de l'information. Hein. C'est un truc super important. Et tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est qu'il y a plein de domaines comme ça où si on ne connaît pas, on rejette. Mm-hmm. Dommage. Alors, attends, je n'ai pas la science infuse, j'essaie juste de réfléchir de manière globale.
On est parti dans cette discussion parce qu'on essayait de promouvoir un peu tes livres. La première chose que tu commences à nous dire, c'est qu'ils sont un peu obsolètes.
Oui, alors, pas tous, parce que Manger bien associé, qui est le dernier, il est clairement pas, dans le sens où c'est justement d'apprendre à bien associer les aliments. Si par exemple, tu vois, ça c'est aussi intéressant. Prenons l'exemple, un truc que presque tout le monde aime, la raclette. La raclette, dans le temps, tu mettais des petits oignons et des cornichons qui étaient à la saumure. Et la saumure, c'est une fermentation qui te permet de bien digérer ce fromage qui est lourd. Donc, d'un côté, tu as la pomme de terre qui va tamponner l'acidité du fromage. Puis, en plus, si tu aimes les religieuses avec le fromage, c'est encore un peu plus lourd. Donc là, tu auras la pomme de terre qui tamponne l'acidité et tu auras les cornichons et les petits oignons. Mais c'est fini, ça. Ils sont plus à la saumure, ils sont au vinaigre. Donc, ça marche plus. Il n'y a plus qu'une société en France qui fait des cornichons qui ne sont pas au vinaigre. Donc, ça fonctionne plus. Alors moi, là, typiquement, si je mange, j'adore la raclette, je vais manger des légumes lactofermentés, mais ça peut être de la choucroute, hein, mais ça peut être de la betterave, de la carotte et tout. Et avec ça, tu vas beaucoup mieux digérer ton alimentation. C'est pour ça que dans la cuisine asiatique, le kimchi, c'est un produit exceptionnel. Puis si tu vas dans les pays de l'Est, le borsch, etc., donc ça devrait être un condiment. Moi, j'essaie d'en mettre à peu près à tous mes repas. Parce que tu fais, après j'ai toujours, ton état de santé correspond à l'état de tes selles. Tu fais une belle saucisse brune ou 2 par jour, c'est que tu vas bien. C'est assez simple hein, en fait. Hein. Et ça aide à ramener des bonnes bactéries dans l'intestin. Et oui. Ça, c'est tout des choses que quand tu commences à savoir associer bien mettre, tu fonctionnes beaucoup mieux.
Alors maintenant, j'aimerais te faire aller sur la thématique, mais on pourrait en faire une émission entière, mais parce que je sais que tu aimes parler de ça, que tes livres sont aussi axés là-dessus, c'est le cerveau.
Oui, alors.
Parce qu'on peut penser nutrition et on pense que oui, maigrir, grossir, dormir bien, ça va, mais le cerveau.
Tu vois, le livre Cerveau tout par-delà avec un X, mais c'est aussi beaucoup lié à l'intestin, là aussi, je ne le réécrirai pas la même chose parce que je sais beaucoup plus de choses, j'ai fait beaucoup plus de mesures. Et que, en fait, ce qui nourrit le cerveau, c'est les organes internes. Ça va beaucoup plus depuis le bas vers le haut. Le cerveau, finalement, s'il veut bien fonctionner, il doit être bien nourri. Ça, c'est une chose qui est absolument fondamentale. Et moi, je peux mesurer un état qui est super intéressant, que presque personne connaît, c'est le problème de la résistance vasculaire systémique. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des gens que je mesure qui ont un souci d'oxygénation. C'est-à-dire que ils peuvent avoir une très bonne VO2 max, etc. et tout, mais l'oxygène circule mal. Donc, dès le moment où je serre la main à quelqu'un qui a les mains froides puis qui fait pas froid, j'ai une réponse. Donc, celui qui a pied, main, truffe froide, il a presque toujours un problème de résistance vasculaire systémique. Je pourrais dire aussi les fesses, mais généralement, je dis aux gens, je reste au niveau pied, main et truffe. Et ça, c'est lié à un problème de NO, de monoxyde d'azote, qui est un gaz fondamental dans le corps et qui est considéré même comme un neurotransmetteur. Et de nouveau, pourquoi est-ce que ce gaz n'est pas très bien produit? Ça, c'est très intéressant. Et le fait de pouvoir mesurer les neurotransmetteurs, ça permet de voir, la dopamine, qu'est-ce que c'est? Mais la dopamine, c'est super compliqué. Ce n'est pas que le système de récompense. Hein. Ça va bien au-delà. Parce que quand tu commences à te récompenser, tu continues. Tu manges un biscuit, c'est rare que tu manges pour un deuxième, un troisième. Tu vois. Donc, c'est exponentiel, la dopamine. Mais c'est souvent plus du désir qu'autre chose. Et c'est deux choses différentes. Et ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, ce serait presque plus, à quelque part, la sérotonine. Et ça, c'est aussi quelque chose de différent. Puis après, un truc qui est fondamental, c'est l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est lié au processus cognitif, la mémoire et tout. Et si tu prends Alzheimer, on n'en parle pas assez, mais une personne qui mangerait 2 œufs tous les matins, quasiment toute sa vie, elle va tout le temps amener de la choline, qui est le précurseur de l'acétylcholine, qui est souvent lié à Alzheimer. Donc, quelqu'un qui fait une activité physique régulière, qui dort bien, qui dort la bouche fermée, qui mange des œufs réguliers, etc., va limiter ses risques. C'est évident. C'est évident. Mais celui qui boit 5 cafés par jour, qui consomme tout le temps du sucre, qui fume, qui boit trop d'alcool, etc., il a moins de chances de bien vieillir. Enfin, je dis toujours, rajoutez de la vie à vos années et pas forcément des années à votre vie. Puis après, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions, c'est clair. Il y a des gens, ils font n'importe quoi. Ils vont super bien, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas une bonne génétique, donc je suis obligé de comprendre des choses. Et puis, je me dis, c'est ma mission, c'est que je suis un peu mal foutu. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, je me pète le dos, j'ai appris des choses. J'apprends toujours. Alors, j'espère pas avoir tout le temps des problèmes, mais finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe, quoi?
Absolument. Eh ben, ça fait quasiment 1 heure de temps qu'on se parle. Et je rappelle ton site internet, www.bn-nutrition.ch.
Très bien. J'ai regardé sur le site, là, pour le livre, hein, Manger bien associé. Je pense que l'émission a eu beaucoup de succès parce qu'il n'est plus en stock. Alors, rassure-nous, est-ce qu'il va être réédité?
Ouais. Là, je pourrais te raconter aussi 2-3 anecdotes avec les maisons d'édition, mais ça, c'est encore autre chose.
D'accord. Donc, on va se les arracher dans les bibliothèques.
Il y en a encore.
Ok. Très bien, on se rassure. Alors. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Et puis, c'est vrai que c'est un thème sans fin. Et puis,
c'est le cas de le dire.
Voilà.
Oui, exactement.
Et je me réjouis aussi d'aller plus loin avec cette thématique qui est vraiment essentielle et qui devrait être en fait enseignée à tous les enfants, à l'école, beaucoup plus que ce que...
Derrière, il y a des lobbies qui vont te dire qu'il faut manger ceci, cela.
Hein. Ok.
Merci infiniment.
Avec grand plaisir, c'était vraiment un plaisir, merci.
En tout cas, passez une bonne semaine et puis dormez la bouche fermée.
C'est ça.